17h à Niamey, c'est l'heure des informations du studio Kalangou. Messieurs, mesdames, tout de suite le journal de ce 22 février 2022. Des journalistes, des humanitaires et des officiels sont en formation sur les questions humanitaires les 22 et 23 février à Niamey, une initiative de la Fondation Hirondelle qui vise à bien informer les populations en période de crise. Dans la région de Tillabéri, les femmes de Bani Bongou déplacées à Baléyara pour cause d'insécurité vivent dans des conditions difficiles avec leur famille. L'aide fournie par l'État et ses partenaires ne couvre pas tous leurs besoins, à suivre un témoignage dans ce journal. En partie magazine, vous suivrez l'entretien accordé par Kadi Sombaizé, une mère de famille qui vit de l'agriculture dans la région de Dosso. Hawa Momana au micro. La Fondation Hirondelle, représentée au Niger par Studio Kalangou, organise les 22 et 23 février à Niamey une formation sur les questions humanitaires. Celle-ci est destinée aux journalistes, aux humanitaires et aux officiels autour de la thématique « Comment bien informer les populations en période de crise ?» Jacqueline Dalton, experte dans les questions humanitaires et chargée de formation à la Fondation Hirondelle. Elle est au micro de Zainab Abdou.
Dans des situations de crise, les médias ont un rôle crucial à jouer pour aider la population qui est impactée par la crise. C'est-à-dire, elle peut donner des informations utiles, comment prévenir des maladies, comment se gérer au niveau psychologique, comment accéder aux services de l'aide. Et puis, c'est la raison pour laquelle on a réuni les médias et les acteurs humanitaires, y compris des représentants du gouvernement, pour qu'ils discutent entre eux de comment travailler ensemble dans une crise afin de permettre à la population d'avoir des informations utiles, pratiques et fiables pour leur permettre de gérer leur situation.
Ce 22 février, les scouts du monde célèbrent la naissance du fondateur du scoutisme, Sir Baden-Powell. Cette année, la lumière est mise sur l'impact du scoutisme dans le monde. Au Niger, l'association en plein essor compte aujourd'hui plus de 4000 membres. Maman Lawan Soumana, commissaire international de l'association scout du Niger, revient sur son évolution au micro de Rabia Meikanou.
Le scoutisme est arrivé au Niger dans les années 40, mais ça a été interrompu avec le régime militaire de Kounté qui avait suspendu toutes les organisations au profit de la Samaria. Mais en 93, avec la conférence, les activités ont repris. Il y a quelques années, nous étions à 3000. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 4000 scouts au Niger. Chaque région a un commissariat régional. Nous sommes beaucoup plus dans l'éducation non formelle, avec des systèmes tels que le système de patrouille, le travail en équipe, le développement communautaire qui doit amener les jeunes à s'intéresser beaucoup plus aux soucis du développement de leur quartier. Il faut que chaque jeune puisse poser des actions de développement communautaire dans son quartier et à l'échelle de la commune, à l'échelle de la ville et ainsi de suite.
Depuis août 2021, plus d'une centaine de familles ont fui les attaques armées à Bani Bongou pour s'installer à Baléyara. Bien qu'elles soient éparpillées dans la ville, ces familles reçoivent l'appui de l'État et des organisations non gouvernementales. Seulement, cet appui ne suffit pas à soutenir leurs besoins quotidiens, souligne Hawa Hamidou Deikoukou, présidente des femmes déplacées de Bani Bongou à Baléyara. Elle est au micro de Seydi Abdou Widintan.
Nous sommes les premières personnes déplacées de cette localité. Arrivés ici, ils nous ont bien accueillis. Mais le problème, c'est qu'on ne peut exercer aucune activité pour subvenir à nos besoins. On remercie quand même les autorités et certaines ONG qui nous viennent en aide. Seulement, c'est insuffisant pour des familles nombreuses. Certains pères de famille sont obligés d'aller en brousse pour chercher de quoi à manger. Et nous, les mères, on se débrouille également. Mais la situation est vraiment préoccupante. Car la plupart des pères de famille ont été tués, laissant derrière eux des femmes et des enfants. On rencontre vraiment de grands problèmes. Même dans les centres de santé, on manque de personnel pour la prise en charge des malades. Nous demandons vraiment à ces autorités de nous venir davantage en aide et nous appuyer davantage pour qu'on puisse s'en sortir.
Dix-sept morts, 8 blessés, dont 5 graves évacués à l'hôpital du district de Wallam. C'est le bilan d'une attaque d'hommes armés non identifiés contre les passagers d'un véhicule de transport dans la nuit du dimanche au lundi sur l'axe de Tisgourou-Bani Bongou, région de Tillabéri, selon une source municipale contactée par Studio Kalangou ce jour. L'acquisition du matériel via le fonds d'aide à la presse et le contenu de certaines revues de la presse en langue nationale au centre des échanges ce matin à Niamey entre le Conseil supérieur de la communication et les représentants des médias privés. Sur le deuxième point, le président de l'institution a parlé des mesures qui sont envisagées pour faire respecter l'éthique et la déontologie du journalisme. Dr Sani Kabir, président du CSI.
Je ne dis pas que tous les médias dérapent, mais vraiment certains le font souvent de manière exagérée. Et souvent vraiment c'est des informations dénaturées parce que le journaliste lui-même interprète l'information et souvent il la dénature malheureusement. La plupart de nos confrères en langue nationale n'ont pas malheureusement fait des études de formation journalistique, nous sommes conscients de cela. C'est pour cela que déjà le CC a approché l'IFAEM pour élaborer un lexique du journalisme en langue Hausa et Zarma, qui est presque achevé. Donc ça peut être un outil supplémentaire pour ces journalistes de bien s'outiller en matière journalistique. Parmi aussi les formations qui ont commencé à l'EFTECTUR dans le cadre du fonds d'aide à la presse, il y a une dizaine de journalistes qui ont déjà commencé au titre de cette année en licence et en master, et au nombre desquels, je crois, il y a quelques journalistes en langue nationale. Nous allons toujours poursuivre les formations thématiques, donc en langue nationale, dans les fact-checking ou la vérification de l'information, le traitement des revues de presse en langue nationale. 156 journalistes vont être formés.
Des propos recueillis par Asumana China. L'hôpital du district de Torodi dans la région de Tillabéri a réceptionné le lundi 21 février une nouvelle salle de soins d'urgence d'un coût global de 25 millions de francs CFA entièrement financée par une ONG. Cette infrastructure permettra une prise en charge efficace de plusieurs pathologies, explique la médecin-chef de la localité, Dr Alissa Garba, au micro de Boubacar Saini.
L'importance de la salle de soins d'urgence ici dans le département de Torodi, c'est surtout le système d'évacuation sanitaire. Puisque avant, les cas d'extrême d'urgence tels que les cas d'anémie sévère qui nécessitent une transfusion sanguine, aussi les cas de pneumonie grave qui nécessitent une oxygénothérapie. Avec la construction de cette salle, tous ces cas-là seront pris en charge ici à Torodi. Donc on n'a pas évacué les malades à cause d'une transfusion sanguine. Avec la construction de cette salle d'urgence, ça va diminuer le nombre d'évacuations sanitaires à Niamey. Il y a aussi des chambres qui sont mises à la disposition des agents. Ces salles-là vont servir d'échange des vêtements. Pour éviter la contamination des autres malades, il y a une salle d'isolement qui est là. Par exemple, des cas de rougeole, ou bien des cas de choléra, de tuberculose, ou bien un cas de COVID suspect.
Le nombre de cas de paludisme dans la commune d'Agadez est en hausse pour ces 6 premières semaines de l'année 2022 comparativement à la même période de l'an passé. Une situation qui doit alerter, a indiqué Dr Abdelrachid Harouna, médecin-chef du district sanitaire d'Agadez commune. Il est au micro d'Anissé Karim.
Les cas de paludisme pendant la première semaine jusqu'à la sixième semaine 2021. On a comparé ces mêmes cas par rapport à la même période 2022. Alors le constat est tel. Pour l'année 2021, les femmes enceintes, il y avait 123 cas de paludisme. Et en 2022, pendant la même période, il y avait 140 cas. Donc vous avez vu, il y a une petite différence. En ce qui concerne le paludisme, simple, en 2021, entre S1 et S5, on avait 1001 cas. Et qu'en 2022, on avait, comme paludisme, pendant la période S1 à S5, 1472 cas. Donc, vraiment, c'est une situation qui doit nous interpeller parce qu'on a vu augmenter les cas de paludisme. C'est de vraiment mettre l'accent sur l'utilisation de moustiquaires imprégnés.
Les travaux du projet de la dorsale nord du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain ont été lancés ce matin par le président de la République, Mohamed Bazoum, selon une dépêche en ligne de l'agence nigérienne de presse ANP. Ce projet consiste à construire une ligne électrique haute tension d'environ 913 km partant de Birnin-Kebbi au Nigeria, Ouagadougou au Burkina Faso en passant par le Niger avec une dérivation à Zabori pour relier le Bénin. Le coût total est de 568,2 millions de dollars américains, financé par la Banque mondiale, la BAD, l'Union européenne et une contrepartie du gouvernement nigérien, précise la même source. La Fédération nigérienne de cyclisme a initié une vingtaine de jeunes filles âgées de 12 à 16 ans à la pratique du vélo pendant 8 mois pour le développement du cyclisme féminin au Niger. Aujourd'hui, la Fédération se réjouit des résultats obtenus. Zakari Jibo, président de la Fédération nigérienne de cyclisme, au micro de Salamatou Kadri.
Pour cette année, nous tablons sur une vingtaine de filles parce que vous savez, gérer des sportives, ce n'est jamais facile. Surtout quand c'est le cyclisme, il faut beaucoup de vélos. Or, de nos jours, les vélos de course coûtent excessivement cher. Nous n'avons pas toujours les moyens pour en avoir suffisamment. Je dirais que globalement, notre objectif est de contribuer à l'autonomisation de la femme à travers donc le sport. En faire une activité qui peut servir la femme, qui peut lui permettre de se prendre en charge elle-même. Il s'agit pour nous de préparer les filles à la compétition. Donc, au bout du compte, que nous puissions être en mesure d'organiser des compétitions au niveau local, de la région jusqu'au niveau national, mais aussi, d'ici peut-être 2023, être en mesure de participer aux compétitions féminines de cyclisme qui vont être organisées dans différents pays d'Afrique et d'ailleurs.
La partie magazine de ce journal à présent avec Kadi Sombaizé, une femme âgée de 56 ans vivant à Dousso avec ses 6 enfants. Elle a choisi l'agriculture comme activité génératrice de revenus. En saison pluvieuse ou non, elle mène ses activités agricoles pour subvenir à ses besoins. Nana Diza Hassan, notre reporter, est allée à sa rencontre suivant leur entretien.
Je me suis accrochée à la culture du mil et de l'arachide parce qu'avec ça, quelle qu'en soit la situation, je ne perds pas. Même si la saison est mauvaise, comme cette année par exemple. L'année passée, j'ai eu au moins 60 sacs. Cette année, j'ai eu 40 sacs de mil et 80 sacs d'arachide. C'est pourquoi moi, à mon avis, il n'y a pas meilleure source de revenus que l'agriculture.
Avez-vous de l'expérience dans l'agriculture?
Il y a un projet ici à Dosso qui nous a formés et c'est sur ça que je me suis basée. Et un jour, le projet nous a rappelé, demandant aux femmes de toutes les associations de chercher des champs à louer et qu'eux se chargeront de nous fournir les semences pour qu'on bénéficie pleinement de la saison pluvieuse. Nous l'avons fait et Dieu merci, ça a bien marché. Et dès là, je me suis dit que j'allais chercher mon propre champ et voir ce que ça va donner. J'ai pu trouver 6 hectares de champs à louer. L'année-là, j'ai semé du mil, du sorgho et de l'arachide. Je t'ai dit, j'ai récolté 265 bottes de mil. Pour ce qui est du sorgho, j'ai eu 15 sacs. Et quant à l'arachide, n'en parlons même pas. Moi, j'engage des bras valides pour les travaux champêtres. L'année passée, je n'ai semé que de la pomme de terre. Mais cette année, j'ai mis 200 pieds de moringa.
Quel bénéfice tirez-vous de cette activité?
Vraiment, j'ai beaucoup gagné avec. Parce que maintenant, j'ai mon propre champ. Après la récolte totale, j'ai déjà un acheteur que j'appelle de Niami. Je n'ai jamais eu à exposer mes produits. Comme tu le vois, j'ai de la laitue, des tomates, du poivron et séparé de l'autre côté aussi. Mais ici à Dosso, nous n'avons pas suffisamment d'eau pour le jardinage. Même si les femmes trouvent des champs, même si elles veulent les cultiver, elles n'ont pas tous les moyens nécessaires.
Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour amener d'autres femmes à s'impliquer dans l'agriculture?
Ce que nous voulons de l'État, c'est de nous aider quand il y a des projets. Il peut nous subventionner à 50% et nous créditer à 50%. Avec ça, vous verrez qu'ici à Dosso, nous allons assurer nos besoins en tomates et en choux. Parce qu'il y a des moments à Dosso où on ne trouve pas tous ces produits-là. Donc si l'État nous assure ceci, nos cultures vont prospérer et tous ceux qui ont des champs vont s'y mettre et l'on pourra dire que ceci est une production spécifique de Dosso.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.